Bonsoir. Deux thèmes sont au menu de cette tribune de la presse. Nous commencerons par les six ténors de l'opposition qui conviennent de désigner un candidat à l'élection présidentielle dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance. Cette déclaration est contenue dans un communiqué signé mercredi 12 septembre à Bruxelles par Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito et Antipas Mboussania Mouissi. Ensuite, nous parlerons de l'ouverture mercredi 12 septembre toujours à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, de la troisième édition de la conférence minière de la RDC. Ces assises de trois jours seront plus axées sur le cobalt, dont Kolwezi possède le plus grand gisement mondial. Et pour aborder ces questions, je reçois John Gomboa. Bonsoir, cher confrère.
Bonsoir, Alain. Bonsoir au nombreux publics de la radio onusienne.
Vous êtes directeur général de Congo Facilité Agence, une agence de production audiovisuelle et des services. Jean-Marie Nkambo, bonsoir, cher confrère.
Bonsoir, cher confrère.
Vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir, paraissant à Kinshasa. Georges Kassongo, bonsoir, cher confrère.
Bonsoir Alain.
Vous êtes chargé des programmes et informations de Hope Channel TV, basé à Kindu, au Maniema. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Commençons par la revue de presse pour voir comment la presse kinoise a traité l'actualité de la semaine. Avec vous, Guy Maté, bonsoir.
Bonsoir. La presse kinoise s'est penchée sur la réunion des opposants à Bruxelles, la conférence minière de la RDC, ainsi que sur la rencontre entre la CENCO et les présidents zambiens au sujet du processus électoral. Ainsi, les phares fait état d'une grande messe politique de l'opposition mercredi à Bruxelles, au cours de laquelle Bemba Katumbi Tshisekedi Mozito Kamerhe et Mboussa se sont prononcés contre toute parodie d'élection. Si chacun des partenaires politiques respecte les engagements pris, on peut affirmer sans peur d'être contredit qu'une nouvelle union sacrée de l'opposition est née avec la ferme intention d'obtenir les changements de gouvernance en République démocratique du Congo par voie démocratique, commente Le Quotidien. Selon Forum des As, les opposants Mozito Tshisekedi, Bemba Kamerhe, Katumbi et Mboussa sont tombés d'accord au sujet de la candidature commune de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. Cependant, fait remarquer Le Quotidien, ces leaders de l'opposition exigent du gouvernement et de la CENI neuf préalables à la tenue des élections, dont la mise en œuvre des mesures de décrispation, le rejet de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral. Toujours sur le chapitre du processus électoral, le phare évoque la démarche des évêques en précisant que lors de leur rencontre avec Edgar Lungu, président de la Zambie lundi dernier, ils ont confié leurs espoirs et inquiétudes au sujet du processus électoral. Ils ont noté comme avancée la renonciation de l'actuel chef de l'État à un troisième mandat, l'audit bien que contesté du fichier électoral, la publication des listes provisoires des candidats à la présidentielle ainsi qu'aux législatives nationales et provinciales, fait remarquer Le Quotidien. Par contre, les évêques de la CENCO ont épinglé 6 inquiétudes liées à ce processus électoral, ajoute 7 sur 7.cd. Les médias en ligne citent l'existence d'environ 6 millions d'électeurs enregistrés dans les fichiers électoraux sans empreinte digitale, la détermination de la CENI à utiliser la machine à voter malgré l'absence d'un consensus des parties prenantes, la tension croissante du climat sociopolitique, la persistance de l'insécurité, notamment à l'est de la RDC, et l'éventualité de rejet des élections biaisées par beaucoup de Congolais et par la communauté internationale. Au sujet de la troisième édition de la conférence minière de la RDC, l'agence congolaise de presse ACP en sigle annonce que le président de la République, Joseph Kabila, séjourne depuis mardi à Kolwezi dans les lois là-bas. ZoomEcho.net titre à sa une, Joseph Kabila exige l'application effective du nouveau code minier. En lançant ces messages, explique ces médias en ligne, le chef de l'État a voulu rappeler l'obligation de tous ceux dont les activités sont régies par cette loi de la respecter scrupuleusement. Dans le même panier, les services de l'État, les opérateurs miniers ainsi que d'autres intervenants sont concernés. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté. John Gomboa, directeur général de Congo Facilité Agence, une agence de production audiovisuelle et des services. Parmi les sujets d'actualité de cette semaine, lequel a particulièrement attiré votre attention et que vous souhaitez commenter?
Moi, beaucoup plus les sujets en rapport avec la conférence minière de Lualaba, parce que, à mon sens, ça sera un facteur important pour l'implication du Congolais dans ces domaines qui est réservé pratiquement aux étrangers. Je pense que si on fait la promotion de la classe moyenne. On aura moins d'intrigues en politique parce que aujourd'hui les gens ils vont beaucoup plus en politique pour aller chercher de l'argent. Et ce n'est pas par conviction et pas par idéologie. Donc si l'économie se porte bien, je suis sûr que on aura moins d'intrigues et d'intrigants en politique.
Voilà, nous allons y revenir avec force de détail dans le deuxième thème. Jean-Marie Nkambois, directeur de publication du journal L'Avenir paraissant à Kinshasa, évidemment en dehors des sujets de ce soir. Lequel a attiré votre attention?
Confrère, merci beaucoup pour la parole. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé en tant que journaliste, en tant que canaliste, c'est cette visite de la CENCO auprès du président de la Zambie. Et nous devons comprendre qu'au même moment que s'est effectuée cette visite, il y avait une mission électorale de la même SADC qui a pratiquement clôturé sa mission en RDC. Et nous constaterons que tous les préalables formulés par nos chers évêques par rapport à leur crainte suite au processus électoral, nous constaterons que la mission de la SADC qui termine son évaluation à Kinshasa était tout à fait satisfaisante. Raison pour laquelle l'avenir n'a à penser dire que la SADC ne va pas se contredire. La SADC va rester cohérente au regard de ce qu'elle a vécu sur terrain, tout en jetant un coup d'œil à ce que les évêques ont tenté de dire.
Par exemple, la SADC a avalisé la machine à voter.
Bien sûr, bien sûr. Donc, une fois que la SADC avalise la machine à voter, une fois qu'elle constate sur terrain que les choses se déroulent normalement, que la CENI n'a pas attendu un mois qui est prévu pour pouvoir afficher les listes des électeurs et qu'elle l'a fait 4 mois bien avant les élections, la SADC n'est peut-être que satisfaite. Je ne vois pas par quelle magie Edgar Lungu va procéder pour pouvoir intervenir dans un processus qui avance à pas de géant et dont toutes les parties jusque-là semblent être contentes.
John Gomboy, un commentaire sur cette actualité. Est-ce que la SADC peut écouter la CENCO?
Oui, la SADC peut écouter. La SADC a écouté. Bon, maintenant, quelle est la capacité de la SADC à pouvoir influencer le gouvernement à Kinshasa et le processus électoral, ça c'est une gageure.
Voilà, Georges Kassongo, vous êtes chargé des programmes et informations de Hope Channel TV, basé à Kindu Maniema. Qu'est-ce qui fait l'actualité à Kindu, où vous vous trouvez?
Oui, à Kindu comme dans l'ensemble de la province du Maniema, l'actualité reste marquée par la rentrée scolaire, d'abord dans un climat économique et morose pour les parents, et puis l'état de la route qui relie Kindu à Uvira dans le Sud Kivu, la seule route terrestre qui relie la province du Maniema à l'extérieur, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Nonobstant, les travaux de réhabilitation qui ont commencé, ça fait plus de 3 mois, et jusque-là, il n'y a qu'environ 65 kilomètres. Donc, on a des difficultés énormes pour quitter Kindu et atteindre Bukavu. En dernier, l'autre actualité, qui n'est pas actuelle, c'est celle de la désignation de Monsieur du Dauphin, du Raïs, en la personne d'un ressortissant du Maniema, vraiment, ça fait parler. Il y a multiplicité de structures de soutien aux dauphins. Voilà les grandes informations du Maniema.
Merci Georges Kassongo. Abordons notre premier thème de ce soir. Si ténor de l'opposition convient de désigner un candidat à l'élection présidentielle dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance. Cette déclaration est contenue dans un communiqué signé mercredi à Bruxelles par Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito et Antipas Mboussa Nyamwisi. Ces leaders de l'opposition ont réaffirmé la nécessité que ce processus aboutisse le 23 décembre 2018 à la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral. Mais ils refusent de cautionner toute parodie d'élection. Blaise Makassi nous fait l'économie de leur communiqué.
Ces leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder en vue de la désignation irréversible dans les meilleurs délais sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible. Ils promettent de mettre en commun leurs efforts ainsi que ceux de la société civile pour obtenir la tenue des élections crédibles, transparentes et inclusives. Ses opposants demandent le déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser les processus électoraux, les candidats et la population. Ils plaident aussi pour la participation de la MONUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et les facilités logistiques. Ces leaders de l'opposition réunis à Bruxelles rejettent aussi la machine à voter qui, selon eux, viole la loi électorale. Ils exigent le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et extraire le plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Les participants à cette réunion recommandent aussi la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique conformément aux dispositions de l'accord du 31 décembre 2016.
Merci Blaise Makassi. John Gomboa, directeur général de Congo Facilité Agence, une agence de production audiovisuelle et des services. Comment vous analysez cette rencontre des ces six ténors de l'opposition à Bruxelles?
Moi je pense que c'est un simple jeu de rôle. Un simple jeu de rôle dans la mesure où, à mon sens, les opposants qui sont retrouvés là-bas, on va dire, c'est, on a dit 6, mais en fait c'est 5 plus 1, dans la mesure où il y a 5 candidats, et puis un acteur politique qui est resté pendant un long moment à l'étranger, en l'occurrence Antipas Mbusa Nyamwisi. C'est une forme de jeu de dupe parce que dans leur communiqué, ils disent une chose et son contraire. Moi, j'aurais aimé qu'ils soient francs. Ils disent qu'ils veulent des élections, et puis en même temps, il y a une conditionnalité telle que ces élections, en réalité, à cette période, ne pourront pas s'organiser s'il faut se référer à ces conditionnalités-là.
Là, vous faites par exemple allusion à la machine à voter, qu'il faut écarter.
Oui, il faut écarter la machine à voter, il faut évidemment les 10 millions de lecteurs dont on ne retrouve pas les traces, ainsi de suite. Et voilà, il faut auditer les processus, et tout ça, ça peut pas se faire en deux mois, parce que bon, la propagande électorale va débuter sous peu. Alors, on ne peut pas en même temps exiger cela et vouloir organiser les élections le 23 décembre. J'avais suivi le président Vital Kamerhe disant que la machine à voter, plutôt la machine à voter n'était pas dans la loi, mais par contre il était prévu l'impression des bulletins au mois de septembre. Mais là il faudra savoir que vous prenez une option ou bien une autre. Si vous avez pris l'option de la machine à voter, ça signifie que c'est un budget qui est différent du budget que vous allez avoir si vous prenez les bulletins des votes.
Alors, est-ce qu'il n'est pas temps que la classe politique, la société civile, puisse se mettre autour d'une table pour lever une option claire, trouver un consensus autour de cette question?
Mais j'ai dit ici que c'est un jeu de dupes. Les politiciens de tous bords, ils prennent la population congolaise comme les derniers des imbéciles, excusez-moi les termes, parce que de part et d'autre, on veut de ces négociations, mais personne ne prend le courage de les annoncer le premier. Alors, ils passent par des subterfuges pour amener l'autre à commettre la faute. Au fait, c'est celui dans ces jeux-là, c'est celui qui va le premier dire « je veux des élections » qui va être le perdant de ces jeux. Mais entre-temps, c'est la population qui en pâtit.
Jean-Marie Nkamboa, directeur de publication du journal L'Avenir paraissant à Kinshasa, un jeu de rôle, un jeu de dupes, ses opposants veulent la chose et son contraire, dit John Gomboa. Quel est votre avis?
Nous disons que c'est une perte de temps inutile, dans la mesure où les conditionnalités qui sont levées aujourd'hui sont les mêmes qui ont existé et qui existent depuis un certain temps. Et à lire leurs conditionnalités, vous vous rendez facilement compte que les amis de l'opposition n'ont aucun intérêt à aller aux élections, des élections pour lesquelles ils savent bien avant qu'ils seront des perdants. Dans ce contexte-là, ils ne peuvent que multiplier les conditionnalités dont ils savent eux-mêmes
qui ne seront pas réalisées. Et même si par l'impossible elles sont réalisées, elles auront comme conséquence d'élargir la période électorale, de pousser la CENI à pouvoir violer son propre calendrier électoral. C'est dans ce contexte-là qu'on se rend compte vraiment que c'est une perte de temps. Les opposants auraient mieux faire de se concentrer au processus électoral et déposer des actes qui rassurent la population congolaise. Les actes qui rassurent la population congolaise aujourd'hui, c'est quoi? C'est se rencontrer et nous trouver un candidat unique ou bien un candidat commun qui aura un programme de toute l'opposition et qui fera face au candidat du Front commun pour le Congo qui a été désigné. Et aussi longtemps qu'ils n'auront pas encore désigné un candidat commun, aussi longtemps qu'ils n'auront pas encore posé des gestes qui rassurent leur base, qui rassurent la population, tout ce qu'ils feront sera peine perdue. Ce sera une perte de temps inutile. Et je me plains même par rapport à une certaine population qui les suit, parce que lorsque vous suivez des leaders, il faut voir son agir, il faut voir les actes qu'il pose. Quels sont les actes qui sont posés pour aller dans le sens de l'organisation des élections? En faisant une petite évaluation, on se rend compte que rien n'est fait. Ils sont en train de divaguer. Ils se sont retrouvés dans les camps de ceux qui ont été invalidés, disqualifiés. Et ils ne trouvent pas quel est l'avantage d'aller aux élections.
Alors, quand poser des actes qui rassurent la population, ça passe aussi, Jean-Marie Kamboi, par le fait de lever une option claire sur des questions qui gênent comme la machine à voter.
Oui, mais comme je venais de le dire, il y a des questions qui ont déjà été répondues et sur lesquelles on a eu à insister et qui ne méritent pas qu'on y revienne. Il y a des questions aussi qui ont été évoquées, pratiquement des questions de la honte.
Lorsque
vous demandez à la SADC ou aux institutions internationales de déployer une force pour sécuriser les candidats présents de la République et la population, c'est une condition de la honte. C'est comme pour oublier que nous avons une brigade de la MONUSCO qui est à l'Est et au sein de laquelle nous trouvons les troupes de pays membres de la SADC. C'est comme pour oublier que nous avons un gouvernement qui nous dirige et dont la mission première est la protection des Congolais et de leurs biens. Et ce gouvernement-là a une police, a une armée et qui n'ont pour mission que de protéger les Congolais et leurs biens. Et on ne peut pas, dans ce contexte-là, prétendre, comme si on ignorait même les contextes du pays, on ignorait les contextes sous-régionales, on ignorait les contextes internationaux où les grands pays sont en train de refuser tout interventionnisme international, tout interventionnisme des pays tiers. On fait semblant de tout ignorer pour avancer des conditionnalités qui ne tiendront même pas pour distraire uniquement l'opinion.
Avant de donner la parole à Georges Kassongo, John Gomboa, rapidement, oui. C'est une perte de temps aussi pour vous?
Non, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Je voudrais quand même nuancer les propos de Jean-Marie. La machine à voter n'est pas seulement craint par l'opposition. Il y a même des acteurs de la majorité qui n'en veulent pas. Mais la majorité est tellement disciplinée que ces avis-là ne peuvent pas s'entendre auprès du grand public. Donc, la machine à voter, c'est une vraie bête noire pour la plupart des politiciens. Parce que elle va permettre de sanctionner tout le monde. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je voudrais enchaîner. L'opposition, dans les contextes actuels, normalement, elle a beau jeu parce qu'elle n'a pas géré, et donc elle peut prétendre pouvoir faire mieux que la gestion actuelle qui n'a pas été tout à fait heureuse. Mais alors, par contre, le vrai problème de l'opposition est piégée maintenant, et je crois que c'est trop tard. Elle est tombée dans un dilemme où si elle choisit d'utiliser la machine à voter,
elle pense que elle ne va pas contrôler l'organisation des élections et donc elle va perdre.
Merci.
Mais si elle n'en veut pas, eh bien on lui donnera encore, elle devra encore demander plus du temps et donc permettre que les élections ne se tiennent pas et dans les délais convenus.
Georges, Jean-Marie Nkambwa, je reviens à vous. Georges Kasongo, chargé des programmes et informations de Hope Channel TV, basé à Kindu, au Maniema. Quel mérite pour vous cette réunion de l'opposition peut-il avoir?
Bon, nous pouvons dire clairement en tant que journaliste que cette réunion de l'opposition à Waterloo, qui est une petite ville aussi de Bruxelles en Belgique, était un rendez-vous manqué de plus. Parce que si nous voyons d'abord la configuration de la réunion, les opposants, il y a les disqualifiés ou comme on les appelle les invalidés et les exclus dans un fauteuil et dans l'autre fauteuil, il y a ceux qui ont été qualifiés. Et dans la mesure du possible, nous trouvons que ce sont les exclus et les invalidés qui ont gagné la réunion parce qu'ils ont réussi à passer leurs préoccupations au devant de la scène. Et pourtant, même les deux qualifiés devraient s'entendre que toi, vraiment, on t'avance comme candidat président et moi, je serai, disons, à la primature au cas de la victoire. Mais ce que nous voyons, c'est les dilatoires. Ils se sont lancés au lieu de nous désigner. Ce que la population attendait de Waterloo, c'est quoi? C'est la désignation d'un candidat commun de l'opposition. Mais ils nous ont lancés dans un jeu grave. Rejet de la machine, pendant que la CENI vient de nous annoncer qu'il y a 58 000 machines déjà en mer vers le Congo. La SADC a déjà validé l'utilisation de la machine. Il nous parle de la décrispation, ce qui veut dire qu'il y a d'abord des prisonniers qui quittent la prison. Il y a aussi ceux qui sont à l'extérieur et qui reviennent, ceux qui ont été invalidés, qui reviennent. Que la CENI réouvre encore le bureau de réception et de traitement des candidatures. Il nous parle de l'inclusivité, il nous parle des candidats communs dans d'autres temps. Bon, d'un moment à l'autre, si vous analysez cette fouade, cette déclaration de Waterloo, vous trouvez que l'opposition, semble-t-il, je parle en tant que journaliste et en débarrassé de toute considération, j'ai dit que c'est comme si l'opposition n'est pas prête pour les élections, mais elle tend vers une nouvelle transition. C'est ce que ça veut dire. Quand vous analysez, on vous dit qu'il faut commencer par rejeter la machine. Or, la CENI est claire, sans machine, il n'y a pas d'élection en décembre. La SADC, qui est l'organe sous-régional, a validé la machine. Moi, j'aurais souhaité que l'opposition dise qu'il faut qu'on puisse auditer ces machines, voir les logiciels, les programmes qui est dedans. Hein, s'il y a des germes de fraude, ce qu'on appelle en kiswahili les birougou à l'intérieur des machines, il fallait voir ça. Il fallait aussi dire que non, s'il faut radier, hein, ils ont encore dit qu'il fallait radier environ 6 ou 10 millions d'électeurs enrôlés. Moi, je me suis fait enrôler en Bikenge, secteur de Moulou, dans le territoire de Kasongo, au Maniema, où j'ai trouvé dans les bureaux d'inscription, il n'y avait même pas les dispositifs pour prendre les empreintes digitales. C'est moi qui ai demandé que vous devez placer ces dispositifs pour prendre mes empreintes. Et juste après, moi, on a enlevé, on a déconnecté les dispositifs. Alors,
Georges,
c'est presque tout, oui.
Georges, sur les six ténors de l'opposition qui se sont retrouvés à Bruxelles, seuls deux de leurs candidatures ont été retenues par la CENI. Il s'agit de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Et donc, à vous comprendre, ça aurait été plus facile de désigner carrément un candidat.
Oui, s'il faut gagner du temps, s'il faut être réaliste, s'il faut croire que les élections sont au 23 décembre, il fallait qu'on leur dise que non, Monsieur Kamerhe, toi et Félix, nous voyons celui qui a les profils. Celui-ci a été expérimenté, celui-ci vraiment c'est un novice à la matière, voilà, considérant ces critères objectifs, toi qui nous représente à la magistrature suprême, pour briguer la magistrature suprême, et toi qui te présentes ici comme le probable, disons, premier ministre au cas de notre victoire, au lieu de nous lancer dans ce jeu, à mon avis, qui ne cherche qu'à inclure ceux qui sont déjà là, avec pour conséquence perte du temps, une nouvelle transition de glissement en glissement, c'est ce que ça veut dire.
Merci Georges. John Gomboy, entre Félix et Vital qui étaient sur place, il fallait désigner simplement un candidat.
bon, unique ou commun. Je ne pense pas que ce soit ça leur objectif. En fait, si vous suivez même l'esprit du communiqué, vous voyez que ce n'était pas ça ce qui les préoccupait. Et pourtant, s'ils mettaient un candidat en avant-plan, et ça permettrait déjà de beaucoup avancer. Même si le président Vital Kamerhe a dit que si on désigne un candidat, on peut lui couper la tête. Mais il y a un candidat et puis il y a un second et puis ainsi de suite. Mais moi je crois qu'il y a une forme de symbolique. Je ne sais pas si l'opposition y a pensé. Vous savez ce que signifie Waterloo en français? Ça signifie l'échec. Ça signifie la défaite. C'était en fait là que
Napoléon Bonaparte
a été défait. Ça sera peut-être le cadre dans lequel l'opposition va être défaite totalement. Ils ont déjà choisi 5 plus 1, mais en oubliant qu'il y a une dizaine de candidats président de la République à qui on a considéré qu'il n'avait pas droit à la parole. Moi, je voudrais citer ici les cas d'Alain Daniel Tshekomba qui est candidat indépendant, mais qui a fait une proposition constructive, à mon sens. C'était d'organiser une sorte de forum pour que toutes les questions qui fâchent soient évoquées. Et comme ça, on les extirpe. Et puis, on avance. Et ça, c'est plus pragmatique, à mon sens.
Et on lui a posé la question, dans une interview avec lui. Il a dit qu'il n'avait même pas encore reçu de réponse de qui que ce soit.
Oui. Parce que la fameuse machine à voter, ben, on ne va pas inventer la roue. Elle est bien là. Eh bien, est-ce que vous avez des experts qui peuvent démontrer que cette machine, elle va servir à tricher? Eh bien, amenez les experts, amenez tout le monde, asseyons-nous, que ce soit même en direct de la télévision nationale. Comme ça, tout le monde voit qu'eh bien, cette machine, elle peut servir à tricher comme ceci, comme cela. Ça, je crois qu'on serait été plus pragmatique. Mais ils ont préféré aller à Waterloo et donc aller à leur défaite, laissant d'autres candidats. Parce qu'on ne va pas dire aujourd'hui qu'il y a des petits candidats ou des grands candidats, quoique il y ait déjà des préjugés. Donc moi, je crois que stratégiquement, cette façon de faire n'est pas bonne pour les 5 plus 1. Et moi, je crois qu'ils n'auront pas le courage de pouvoir désigner un dauphin. Et ils tombent sous le sens que ça va être probablement Félix Tshisekedi qui va s'imposer naturellement, parce que personne ne voudra lui faire une telle passe en or.
Alors, dans ce décor, John Gombois, quelle est la place de l'accord de la Saint-Sylvestre?
Bon,
qui continue d'être évoqué.
Oui, mais alors les gens qui évoquent l'accord de la Saint-Sylvestre, il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Parce que l'accord de la Saint-Sylvestre, on demande sa mise en application totale. La mise en application totale, ici, est entendue. Quand vous entendez le politicien de l'opposition dire cela, pour décoder, pour faire plus simple, ça signifie il faut que nous ayons la primature et aussi d'autres institutions conséquentes. Mais cela signifie prolonger le processus. Cela signifie que le président Kabila, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, eh bien, il va rester président jusqu'à ce qu'on ait un nouveau président avec lequel il va passer la main, le bâton. Est-ce que c'est ça ce qu'ils veulent? Question mark.
Jean-Marie Nkambwa, quels sont les préalables pour vous pour un processus crédible, apaisé et inclusif?
Bon, pour un processus électoral apaisé et inclusif, moi je pense que le pouvoir en place a donné beaucoup de signaux positifs. Quand je parle du pouvoir en place, je vois aussi la CENI, même si c'est une institution indépendante, je me rends quand même compte qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits afin de rassurer tant soit peu la population congolaise. Lorsque la CENI, par exemple, commande des machines à voter, nous regardons partout comment la population est en train de la tester. La machine est testée, que ce soit à l'opposition ou à la majorité. Tout le monde a testé ou bien tout le monde est en train de tester cette machine qui est en réalité une machine à imprimer les bulletins. Parce que la machine n'est là que pour permettre à la personne de faire un choix
Et c'est ce choix-là qui est imprimé et les petits bulletins qui est versé dans l'urne.
Pourquoi, par exemple, Jean-Marie Nkambwa, la CENI, on sait que la CENCO a demandé la certification de cette machine. Pourquoi la CENI, par exemple, n'a pas simplement cédé à cette demande pour rassurer encore la classe politique et la société civile?
La CENI obéit non seulement à son cadre organique, mais aussi il y a une loi. Et dans la loi, il est prévu un audit. Et l'audit en question n'a pas été fait par un organisme local, parce que tout ce qui est fait par les Congolais, on risquerait de dire que non, c'est mauvais, il y a corruption et consorts. Mais l'audit a été fait par l'Organisation internationale de la francophonie. C'est cette organisation qui a audité notre fichier électoral, dont certains semblent aujourd'hui contester et merci, exiger un autre audit. Donc, j'aimerais tout simplement dire que la CENI demeure une institution indépendante. Et la question de la machine à voter, ce n'est pas à en croire la CENI une question pour laquelle il faille chercher un consensus de tout le monde, de toute la classe politique, merci, dans la mesure où c'est elle qui doit nous organiser les élections par rapport au mandat, par rapport à sa mission reçue dans la constitution de notre pays.
Merci. Georges Kassongo, pour vous, quels sont les préalables pour un processus électoral apaisé et inclusif? Et crédible, bien
oui,
sûr.
Oui, pour un processus crédible, comme vous venez de le dire, nous pouvons dire l'opposition d'abord doit vaincre sa crainte, sa peur à outrance des machines, mais aussi au gouvernement de rassurer l'opposition, créer les conditions et le climat de confiance, mais également à la CENI d'être à l'écoute des parties prenantes aux élections, parce que les élections qu'organise la CENI, ce ne sont pas les élections et la CENI. Ce sont les organisations, disons les élections du peuple congolais, de l'opposition comme de la majorité. L'opposition devait d'abord écouter les parties prenantes aux élections, mais aussi permettre à ce qu'il y ait certification, par exemple, de ces machines. Même s'il faut craindre la machine, c'est une chose, mais ce ne seront pas les élections électroniques. Ça sera d'une part la machine avec ses résultats, mais quelque part aussi l'urne avec des bulletins à l'intérieur où dans chaque bureau on pourra confronter les résultats des bulletins ou à celui de la machine. Mais avoir beaucoup de témoins, par exemple, la CENI être à l'écoute, disons, des parties prenantes, mais aussi au gouvernement le faire peur parce que, disons, l'entêtement, la façon dont les gouvernements à organiser les élections,
merci,
fait planer beaucoup de suspicions et de doutes, et cela ne fait qu'empirer la situation et aussi détériorer le climat de confiance qui, à mon avis, semble déjà être détérioré.
Merci Georges. Nous allons passer à notre deuxième thème. Très rapidement, Jean-Marie Nkambwa, très rapidement.
Je vais tout simplement verser un petit élément au moulin de Georges. Georges, la machine à voter, comme je venais de le dire, c'est en quelque sorte une machine à imprimer. Lorsque vous vous présentez devant la machine et que vous faites un choix, la machine vous imprime un bulletin que vous introduisez dans l'urne. Une fois que les élections ont pris fin, on va comptabiliser les bulletins qui sont, merci, dans l'urne et on fera des procès verbaux qui seront signés par les candidats, par les témoins, par les présidents des bureaux, et on ne va plus tenir compte de la machine à voter qui avait déjà fait son travail.
Merci. John, pour raison d'équité, un mot à ce sujet.
Oui, brièvement. Ce que je peux dire, c'est la solution pour les élections apaisées, c'est avoir un observateur pour chaque parti politique dans chaque bureau de vote. Ça sera tout simple.
Voilà. Deuxième thème de ce soir. Ouverture mercredi 12 septembre à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, de la troisième édition de la conférence minière de la RDC. Ces assises de trois jours seront plus axées sur le cobalt dont Kolwezi possède le plus grand gisement mondial. La rencontre regroupe plusieurs acteurs impliqués dans le secteur minier, notamment les opérateurs économiques, la société civile, les ministres provinciaux et nationaux, ainsi que les différents chefs coutumiers. Suivons cet extrait du discours du président Joseph Kabila à l'ouverture.
Notre ambition reste à court et à moyen terme, celle de transformer radicalement les visages de désolation observés le long des routes traversées par les convois de produits miniers, de Kolwezi à Kasumbalesa, en passant par Lubumbashi et Likasi, et dans bien d'autres provinces minières à travers tout le pays, en comblant les espérances restées longtemps déçues. J'exige la mise en œuvre effective du nouveau code minier en ce qui concerne les questions inscrites à bon endroit à l'agenda de cette conférence, afin qu'aucun produit minier ne soit exporté à l'état brut. Il est évident que le minerai du Congo ne saurait continuer abusivement à ne satisfaire que les commodités des investisseurs et du marché mondial. Il devait aussi avant tout améliorer les conditions de vie des Congolais et participer à la modernisation du pays.
Voilà, je signale qu'il nous reste 10 minutes pour ce deuxième thème et donc je demanderai des réponses assez brefs pour que nous puissions terminer en beauté. Georges Kasongo, chargé des programmes et informations de Hope Channel TV, basé à Kindu, Maniema, le président de la République exige la mise en œuvre du nouveau code minier. Ça sent un peu un aveu d'impuissance.
Oui, un aveu d'impuissance. Je ne suis pas d'accord, mais nous pensons que le nouveau code minier, c'est un code qui, à mon avis, semble être vraiment ad hoc, disons, renouvelé. C'est un code qui a aussi pris en compte quelques défaillances de l'ancien code minier de 2002. Et nous constatons également que cette conférence minière semble n'avoir pas été inclusive au regard des difficultés qu'ont éprouvées les acteurs de la société civile qui se sont déplacés pour Kolwezi. Vraiment, nous avons appris qu'ils ont été par moments exclus des histoires comme ça. Mais les nouveaux codes miniers, du fait que ça prenne en compte certaines considérations, notamment les ayants droit coutumiers, notamment la population riveraine des sites à exploiter. Bon. Comme on n'a pas assez suffisamment de... Disons, nous pouvons conclure que cette conférence a été beaucoup basée sur les minerais de la cobaltite. Mais comme le cobalt n'est pas partout en RDC, on se réserve de dire parce qu'on n'a pas aussi suffisamment de connaissances là-dessus, mais nous disons que l'application du nouveau code minier, c'est un aveu d'impuissance, certes, mais également, il fallait que la loi soit appliquée disons à tous et à chacun, parce que de temps à autre, vous savez que disons dans le secteur minier on souffre de beaucoup de monts, c'est entre autres, il y a assez dont la loi s'applique bonnement, assez d'autres dont ils connaissent même la loi, il y a ceux qui sont au-dessus de la loi. Nous aurions souhaité que la loi minière soit d'application et applicable à tous et à chacun.
Merci. Jean-Marie Nkambwa, directeur de publication du journal L'Avenir, paraissant à Kinshasa, dans son discours, lui, le ministre des Mines, a notamment fustigé l'existence d'une contrebande et l'engouement des jeunes désœuvrés vers l'exploitation artisanale des mines. Que peut-on, selon vous, attendre d'une telle conférence?
Merci, confrère. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord préciser le contexte. Nous sommes en 2016 où le pays connaît une récession, où le pays connaît une crise économique. Et en 2017, la RDC connaît un boom minier qui lui permet de pouvoir maximiser les recettes, de pouvoir impulser la croissance de notre pays par rapport au secteur minier. Maintenant, nous sommes en 2018. En 2018, nous devons nous rendre compte que Kolwezi, où les périmètres où se tient aujourd'hui cette conférence, c'est un coin, c'est un réservoir pratiquement du pays où la RDC, sur le plan mondial, a elle seule pratiquement 60% de la production. Et il était tout à fait important pour les gouvernements congolais de pouvoir non seulement se rendre compte de cette réalité, mais aussi prendre des mesures pour permettre à ce que la croissance de notre pays, qui est en grande partie impulsée par le secteur minier, puisse aussi profiter à d'autres secteurs. Alors, c'est dans ce contexte-là que les compartiments les très importants s'est déplacés à Kolwezi, afin de pouvoir trouver des voies et moyens pour permettre à ce que les mines ne soient pas tout simplement une malédiction, mais qu'elles soient aussi une bénédiction pour le peuple congolais. Maintenant, selon moi je pense qu'il y a beaucoup de défis qu'il faudra résoudre. Peut-être que les recommandations qui seront prises pourront aller dans ce sens-là. D'abord, c'est la conférence est organisée dans un contexte où des crises, où les miniers, où les sept majors
et le gouvernement n'émettaient pas ou n'émettent pas encore aussi une même zone d'onde. Donc selon moi, le défi sera pour le gouvernement de pouvoir approcher les partenaires les plus importants afin qu'ils puissent ensemble émettre sur une même zone d'onde. Émettre sur une même zone veut dire quoi? Veut dire que l'on puisse respecter les codes miniers ainsi que toutes les lois en la matière. Vous vous souvenez qu'il y a eu une crise où les miniers se permettaient de vendre les minerais en Europe, merci, mais ils avaient du mal à pouvoir rapatrier les dits qui revenaient, que, disons, ce qui avait été convenu pour renforcer les réserves internationales d'échange de la Banque centrale du Congo, dans la mesure où la Banque centrale ne s'étant pas retrouvée, était aussi obligée d'écrire un petit mot.
Je reviens à vous pour le deuxième tour de table et nous allons conclure. John Gomboy, directeur général de Congo Facilité Agence, une agence de production audiovisuelle et des services. En début d'émission, en évoquant cette question, vous parliez des possibilités de la formation d'une classe moyenne à partir de ces richesses.
Exactement. Cela se ressent même dans l'intitulé, dans les termes, qui est exploitation minière en RDC face aux impératifs du développement durable des zones productives à port. Rôle et responsabilité de l'État, l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales dans une synergie transparente à la lumière du code minier, c'était long. Mais je crois que ce code minier ici, il permet enfin aux Congolais de pouvoir s'approprier de ces minéraux qui jusque-là ne lui ont pas beaucoup profité. Et je ne suis pas du tout d'accord qu'on aille rediscuter quoi que ce soit avec les fameux G7 ou que sais-je. Parce que il est grand temps qu'on puisse promouvoir les Congolais. Là-dedans, il y a deux choses à faire, à mon sens. Il y a le small-scale mining qui promeut la petite mine. Mais il y a aussi les coopératives minières. Je voudrais en passant saluer la CDMC Mining SRL d'un ancien confrère Serge Moulumba qui est aussi dans ce qu'on appelle les 3T dans l'exploitation minière. Il faut aujourd'hui que des Congolais puissent, même les artisanaux, qu'on les regroupe dans des petites coopératives minières.
Pour gérer notamment l'artisanat.
Oui, et puis, le deuxième niveau, c'est quoi? C'est la sous-traitance obligatoire. Aujourd'hui, vous avez les grosses machines internationales qui amènent tout jusqu'à la restauration. Mais il faut donner la sous-traitance aux Congolais quand il s'agit de vêtir les miniers, les opérateurs miniers, quand il s'agit de donner de l'alimentation. Et cette sous-traitance, ça doit revenir absolument aux Congolais. Alors, il est grand temps que, enfin, on développe une classe moyenne congolaise dans l'exploitation minière en RDC.
Georges Kasongo, souvent, lorsqu'on a de telles conférences, on a beaucoup d'espoir, mais malheureusement, après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pesanteurs, tant sur le plan international qu'en interne. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que réellement les recommandations issues de cette conférence soient appliquées pour le bien de tous, comme l'ont dit les confrères en guise de conclusion?
Voilà, en guise de conclusion, ce qu'il faudra faire, c'est d'abord mettre la loi en application. Il faut que la loi soit appliquée. Vous savez, il y a certains laxismes pour appliquer les lois dans notre pays. De côté, vous trouverez, il y a des sociétés fictives, il y a des contrebandes par-ci, par-là, et aussi, sous-estimation de la production. Tout ça, ça contribue à ce que notre production ne soit pas, disons, bien qualifié. Donc, nous aurions souhaité qu'il y ait de la bonne volonté pour, au moins, appliquer les lois et promouvoir l'industrie minière dans notre pays, sachant que les recettes d'exportation de notre pays, à mon avis, dépendent de plus de 80% du secteur minier, dont les cobalt, on peut dire, en tête. Donc, l'application stricto sensu de la loi nous permettra à ce qu'il y ait quelques embellis dans le secteur minier qui pourra profiter à toute la population congolaise.
Jean-Marie Nkamboy, en guise de conclusion, comment appliquer la loi, comme le dit Georges Kasongo, au-delà des pesanteurs, tant sur le plan international que local?
Confrère, un gouvernement, un pays ne se plaint pas, mais il agit. Agir pour le gouvernement, c'est appliquer les codes miniers.
Et cet agir du gouvernement doit aussi tenir compte du contexte national et international. Raison pour laquelle il y a des mesures d'application du code qui ont été adoptées. Nous pensons que toute chose est restante égale par ailleurs. Si ces mesures sont réellement appliquées et que les uns et les autres se retrouvent, je pense que les conditions des populations congolaises peuvent s'améliorer et nous pouvons avoir les infrastructures que nous voulons. Merci. Et que la croissance ne va pas tout simplement rester mobilisée par ce secteur, elle va aussi s'éparpiller dans d'autres secteurs. Merci. Et elle deviendra inclusive pour toute la population congolaise.
John Gombo, conclusion.
Oui, le régime actuel est critiqué par certains pour son souverainisme. Mais je crois que les domaines dans lesquels tout le monde devrait se mettre d'accord pour ces souverainismes s'appliquent, ce serait bien dans ce domaine minier.
Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. La Tribune de la Presse est terminée pour aujourd'hui. Réalisation Guy Maté, supervision Pélékipela Mondo, mise en onde Polydor Basunga, présentation et coordination Alain Rung Mouchinch. Merci et bon week-end à tous.